Voix du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Igor Strauss.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pas du vent. C'est un livre qui énerve et c'est peu dire. Ce livre, c'est un empoisonnement universel du journaliste Fabrice Nicolino que nous recevons aujourd'hui. Dans cette enquête fouillée, détaillée, sans concession, notre invité raconte l'invasion effrayante des produits chimiques dans notre environnement. Ils sont partout, en quantité incroyable. Ils sont responsables de graves pollutions, de l'explosion, de certaines maladies graves comme le cancer ou Alzheimer. Selon l'OMS, ils seraient responsables de près de 5 millions de morts par an et l'organisation mondiale de la santé d'ajouter que ce chiffre est certainement sous-évalué. Autre source, autre chiffre, le programme des Nations Unies pour l'environnement reconnaît que les intoxications par pesticides coûtent plus cher à l'Afrique que ne rapporte l'aide publique à la santé, sida non compris. On croit rêver. L'heure est donc grave, le constat accablant et la question nous brûle les lèvres. Mais que fait-on pour empêcher tout cela? Réponse, rien ou si peu, car le vrai enjeu est ailleurs, préserver la compétitivité de l'industrie chimique mondiale. Et de ce point de vue, c'est une vraie réussite. Son chiffre d'affaires est passé de 171 milliards en 1970 à 4100 milliards aujourd'hui. Tant pis pour les milliards d'euros d'économies qu'on pourrait faire dans les dépenses de santé. Tant pis pour la planète, tant pis pour nous. Alors oui, dire que ce livre énerve est un doux euphémisme. En le refermant, on a plutôt envie d'exploser. Et puis on réfléchit et puis on se ravise. Car avec tous les produits toxiques que nous avons dans le corps, on se dit que finalement, ce ne serait pas rendre service à la planète et aux citoyens du monde. Bonjour Fabrice Nicolino.
Bonjour à vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est vrai que votre livre, une enquête très complète, je le rappelle, peut rendre fou de rage, car le constat est là, il est grave. Il y a partout autour de nous, dans l'eau, dans l'air, dans le sol, dans les aliments et même dans notre sang, des millions de molécules chimiques qui nous empoisonnent finalement.
Oui, c'est vrai que c'est un peu dur. Bon, moi, j'ai souhaité, je n'y suis pas parvenu, je le dis tout de suite, mais j'ai souhaité ne pas trop affoler les lecteurs. Néanmoins, c'est vrai que la situation est grave, elle est très très grave, pour la raison que vous avez indiquée fort bien. Il y a des millions de molécules différentes qui ne sont quasiment jamais testées, mais dont on sait par approximation que beaucoup d'entre elles sont cancérigènes, mutagènes, tératogènes, c'est-à-dire pouvant donner naissance à des monstres, pouvant aider à la naissance de monstres, d'enfants monstrueux. Et donc, la situation est grave tout simplement parce que cette contamination s'est déroulée grosso modo en un siècle. On peut dire que ça a commencé il y a environ 100 ans et que ça se poursuit et que ça s'aggrave d'année en année. Tous les milieux de la vie sont touchés, en effet. C'est-à-dire l'air qu'on respire, bien sûr, l'eau qu'on boit, bien sûr, les aliments qu'on ingère, bien sûr. Et d'une façon générale, nul n'échappe à cette contamination chimique. Donc, effectivement, je crois qu'il est largement temps de regarder ces choses-là en face.
Alors, on a toute l'émission pour voir en détail comment on en est arrivé là. Quel est le facteur déterminant selon vous? Est-ce qu'il y en a un d'ailleurs?
Bien sûr, il y en a plusieurs. C'est une histoire très complexe et qui commence au fond avec les alchimistes de l'Antiquité. Donc il y a plus que 2000 ans, imaginez-vous.
Vous remontez très loin dans votre livre, c'est vrai.
Mais
on va y revenir d'ailleurs, parce que c'est pas inintéressant.
Moi je trouve ça très très intéressant. En tout cas, parmi les facteurs tout à fait décisifs, il y a évidemment la guerre. C'est-à-dire la rencontre entre les chimistes qui cherchent et qui trouvent parfois, et l'État, via la guerre. Et l'exemple le plus frappant, assurément, c'est celui de la guerre de 1914, donc il y a 100 ans cette année. Fritz Haber, qui est un chimiste allemand absolument génial, se transforme en criminel de guerre, purement et simplement, car il met son savoir de chimiste, de grand chimiste, de très grand chimiste, il aura le prix Nobel de chimie, figurez-vous, en 1918, donc il met son savoir de chimiste au service de l'armée allemande, de l'armée impériale allemande, et il lance ce qu'on a appelé depuis la guerre des gaz, un matin sinistre d'avril 1915, face aux troupes françaises qui sont massées sur le front belge à Ypres, eh bien avec une équipe spéciale, un régiment tout à fait spécial, le régiment Peterson, il fait déboucher par ses hommes des cylindres très 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 lourds qui ont le poids d'un homme, des cylindres remplis d'un gaz chloré. Ce gaz se répand, va frapper les tranchées françaises et tue en quelques minutes plusieurs milliers d'hommes. Donc c'est un tournant historique. On va dire que jusque-là, la chimie était censée trouver des moyens de simplifier et d'améliorer la vie des humains. Et là, brutalement, tournant, et on décide de mettre la chimie au service de la mort, au service de la tuerie de masse. Donc c'est vraiment un événement très marquant.
Et c'est vrai que pour comprendre le rôle de l'industrie chimique, justement, il faut remonter. Alors, on peut remonter à 500, 1000 ans, vous l'avez dit. dit, mais surtout à la création de ces grandes multinationales que sont Bayer, Dow Chemical, DuPont, BASF et tant d'autres, et que ces multinationales au début développent de nouvelles armes de guerre justement. Il y a un lien étroit, un côté stratégique entre les États et ce développement d'armes de guerre.
Oui, mais c'est, oui. D'abord,
il y a le Zicolombé, la Deuxième Guerre mondiale, l'agent orange au Vietnam et tant d'autres.
Absolument, non, bien entendu. Mais ça, c'est, si vous voulez, c'est dans un deuxième temps. Parce qu'au point de départ, ces transnationales ultra puissantes, Bayer, BASF ou DuPont, ce sont des entreprises colossales qui ont souvent un chiffre d'affaires supérieur au budget d'État entier de la planète. Je vous l'apprends pas, c'est donc colossal. Au départ, c'est tout petit, c'est des start-up, si vous voulez. On pourrait appeler ça des start-up de manière anachronique parce que ça naît dans des garages à vélo en Allemagne. Bayer c'est 1863, BASF c'est 1865. Ce sont des personnes physiques comme vous et moi qui créent des ateliers où on bricole la chimie, on travaille les colorants. Et après, effectivement, toutes petites industries prennent leur essor et se transforment grâce, une fois encore, à la guerre. DuPont, vous parliez de DuPont, mais DuPont doit sa fortune et son expansion extraordinaire à la guerre de sécession américaine. C'est-à-dire que DuPont fournit l'armée du Nord en explosifs. Et après, la guerre de 14, bien entendu. Donc DuPont, c'est absolument la guerre. Bayer, BASF, c'est évidemment la guerre de 1914 qui donne une ampleur extraordinaire à ces groupes-là. Et après la guerre, en effet, vous parlez du Zyklon B, Fritz Haber, qui a donc lancé cette guerre des gaz et qui est pour moi clairement un criminel de guerre, eh bien Fritz Haber continue son travail de chimiste dans un atelier où il dispose de beaucoup de moyens. Et c'est dans son atelier, figurez-vous, que le Zyklon B, qui va ensuite tuer des millions d'êtres humains pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est dans son laboratoire à Fritz Haber que le Zyklon B est synthétisé. Je précise tout de suite que Fritz Haber ne savait pas à ce moment-là, et c'est aussi un point très intéressant de l'histoire, le Zyklon B, c'est un pesticide. Autrement dit, il a été synthétisé pour lutter contre les insectes, contre les ravageurs, les rats qui infestent les entrepôts, notamment militaires. Donc c'est dans ce but-là qu'il a été créé. Mais le paradoxe inouï, c'est que ce pesticide a ensuite servi à exterminer des humains.
Mais justement, c'est intéressant ce que vous venez dire, parce que la chimie est en constante évolution. Est-ce que l'industrie chimique peut se réfugier derrière cet argument ? Ah ben, on ne savait pas, on ne pouvait pas prévoir que...
Non, ça c'est sûr et certain que non, si vous voulez. C'est une histoire vraiment folle. C'est-à-dire, en fait, on pourrait dire ça simplement, c'est une industrie qui a échappé totalement au contrôle humain. C'est-à-dire qu'elle s'est développée sans aucune barrière morale ou politique. Les États ont vraiment abdiqué purement et simplement devant sa puissance. Et s'étant développée, cette industrie fabrique comme de juste. Parce que le but de cette industrie, comme de toute industrie, c'est d'avoir des débouchés, de pouvoir produire massivement des objets, de pouvoir les vendre, les commercialiser. Et donc, elle s'est émancipée de toute tutelle, de tout contrôle, mais faisant cela, elle a forcément constaté, comme nous tous du reste, qu'il y avait des effets considérables sur la santé des organismes vivants, pas seulement les humains, mais les plantes, les végétaux et évidemment les animaux. Donc si vous voulez, j'oserais dire que l'industrie s'en fout. Pour parler vulgairement et sans détour, l'industrie s'en fout car ça n'est pas son but, ça n'est pas du tout son objectif, ça n'a rien à voir avec son entreprise. Elle veut vendre des produits, elle les vend. Le problème, c'est pourquoi n'y a-t-il pas de contrôle social et politique sur cette aventure extrême qu'est la chimie ?
Alors, on parlait de guerre, mais après vient le temps de la paix. Il faut trouver de nouveaux débouchés pour ces produits. Et très vite, on entre dans une spirale infernale. La recherche nécessite beaucoup d'argent. Et pour ces entreprises, il est hors de question de ne pas rentrer dans leurs frais, et ce, même si un produit s'avère être nocif. C'est le début de la dérive de l'intérêt économique qui prime.
Oui, bien sûr. Mais je vous cite un exemple, parce que ce sera peut-être plus clair. Voyez, le DDT, c'est aussi un produit très très paradoxal. C'est souvent le cas avec la chimie. Le DDT, c'est un produit qui a été synthétisé à la fin du 19e siècle et puis qui a été oublié. C'est le cas très souvent en matière de chimie. On invente quelque chose, mais on ne sait pas en fait à quoi ça sert. On le met dans un coin et on l'oublie. Donc, synthétisé à la fin du 19e siècle. Et puis en 1938, un chimiste suisse, Müller, découvre les propriétés insecticides du DDT. Il découvre que c'est formidable pour lutter contre les insectes, les ravageurs, certains qui transmettent le virus, le typhus, pardon. Et donc c'est formidablement intéressant. Ça se répand à une très très grande vitesse. Ça, donc, on découvre ses propriétés insecticides en 38. Dès 1943, il sert à l'armée américaine pour lutter contre la malaria à Naples, qui vient d'être libérée. Et puis ensuite, il faut dire la vérité, le DDT sert à sauver in extremis des rescapés des camps de la mort nazie, parce qu'ils sont ravagés par le typhus. On applique sur ces corps décharnés une poudre insecticide à base de DDT, et miracle, le typhus disparaît, et ces êtres humains condamnés à mort, en fait, par les nazis, survivent grâce au DDT. Et le paradoxe vient de ce que le DDT, assez rapidement, on voit qu'il a des effets délétères. Il a des effets nocifs. Il s'attaque aux équilibres même de la vie. Et l'exemple, c'est Rachel Carson. Rachel Carson, c'est une biologiste américaine remarquable qui, en 1962, démontre dans un livre prodigieux qui s'appelle Printemps silencieux que le DDT est un ennemi vraiment de la vie et qui provoque des catastrophes écologiques, mais des catastrophes humaines, des catastrophes pour la santé publique. À ce moment-là, l'industrie des pesticides, et tout le monde sait parfaitement à quoi s'en tenir, on le sait. Et là, l'industrie des pesticides se lance dans une opération de propagande monstrueuse, vraiment monstrueuse, contre la personne de Rachel Carson, parce qu'elle veut évidemment maintenir ses profits, elle veut évidemment maintenir ses marchés ouverts, et il n'est pas question d'accepter que ce produit-là puisse être un danger. Et ça, on peut dire que c'est un archétype, ça vaut pour tous les produits chimiques qui ont été mis sur le marché et qui posaient problème, dont on sait avec certitude qu'ils posaient problème. L'industrie est contrainte de mentir.
Et le mensonge va durer des années. Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes toujours avec notre invité, le journaliste Fabrice Nicolino, auteur d'Un empoisonnement universel aux éditions Les Liens qui libèrent, une enquête fouillée qui montre comment les produits chimiques ont envahi la planète, et parmi ces produits, le plastique.
Les plasturgistes sont un peu comme des parfumeurs ou des grands chefs en cuisine ou des fabricants de soda qu'on connaît bien, qu'on citera pas. Ils ont leurs secrets, ils ont leur coup de main. Et au-delà du fondement, de la base du plastique, qui est effectivement des matières plastiques qui sont effectivement extraites du pétrole à 90%, il y a tout un tas d'adjuvants, d'additifs qui sont là pour donner de la couleur, pour donner de la flexibilité, pour donner de la souplesse au plastique. Et c'est plus de ces adjuvants, de ces additifs comme le bisphénol, comme les phtalates, comme le plomb dans d'autres plastiques non alimentaires qui suscitent les inquiétudes des écologistes et des consommateurs et même des pouvoirs publics. Le bisphénol se retrouve, semble-t-il, aussi dans les revêtements internes de boîtes de conserve. Donc il peut y avoir des gens qui font chauffer directement leurs petits pois ou dans une casserole sans l'ouvrir. Enfin, vous savez, il y a des tas d'usages complètement quotidiens. Donc ce manque de cloisonnement entre les emballages et les constituants des emballages et le corps humain ou les estomacs des oiseaux ou des poissons. Le problème, je crois, c'est que le plastique, il s'en consomme, il s'en fabrique peut-être à l'heure actuelle 300 millions de tonnes par an. Mais la tonne n'est pas la bonne unité de mesure pour le plastique, il faut plutôt parler de mètres cubes. Donc ça fait 3 milliards de mètres cubes par an, parce qu'on le gonfle, on le souffle, on en fait des emballages. C'est une espèce de verre souple, le plastique. Et donc maintenant, en fin d'usage, il y a des problèmes énormes de confinement, justement parce qu'il est léger, il s'envole, etc. Et après, il se morcelle, il se fracture, il se fragmente, et tout le monde en consomme à son insu.
Jacques Ibonnemain, le président de l'association écologiste Robin des Bois. Alors, le plastique, ou plutôt les plastiques, sont partout, notamment dans les océans, et sous forme de fibres ou de microbilles, parfois invisibles à l'œil nu, Fabrice Nicolino.
Oui, c'est vraiment incroyable. Là, j'écoutais Jacques Ibonnemain avec je connais ces histoires bien sûr, mais elles me paraissent toujours aussi stupéfiantes. Là encore, on est passé d'une industrie qui fabriquait, figurez-vous, je crois de mémoire, hein, mais je pense qu'en 1950, je crois qu'on fabriquait 1 500 000 tonnes de plastique. Aujourd'hui, on est à 300 millions. Vous imaginez, en 50 ans, en un peu plus que 50 ans, une multiplication par 250 ou quelque chose comme ça, c'est tout simplement foudroyant. Là encore, on est en face d'un phénomène d'emballement inouï. parce que les plastiques ont leur histoire, ont une histoire. Et le premier, on estime que le précurseur, que le pionnier, enfin, dans le domaine du plastique, c'est la bakélite. Alors, tout le monde se souvient pas forcément parce que c'est plus tellement utilisé, mais il y a encore quelques décennies, disons, la bakélite, par exemple, servait à faire les combinés téléphoniques. Et après la guerre, mais c'est toujours un peu lié. C'est-à-dire qu'il y a nécessité de trouver des débouchés civils. La guerre ne dure pas une éternité. Après 1918, les grands groupes chimiques, si vous voulez, sont obligés de se reconvertir. Donc il y a des recherches dans des grands laboratoires et surtout aux États-Unis en vérité, et dans le courant des années 20 et surtout des années 30 naissent les plastiques modernes. Alors les plastiques modernes, c'est le polyéthylène, c'est les polystyrènes, c'est les polyuréthanes, c'est les polyamides avec le nylon. Évidemment,
le PVC et tant d'autres.
Le PVC qui est sur le papier une invention
troisième matière
remarquable.
Plastique la plus utilisée, hein, 34 millions de tonnes en 2010.
Est-ce qu'on imagine ce que ça veut dire, 34 millions de tonnes? Mais le PVC à lui tout seul ne sert à rien. Jackie Bonnemal disait, je vous le redis, le PVC ne sert à rien, il faut lui apporter des adjuvants, des plastifiants notamment comme les phtalates. Mais vous prenez un rideau de douche, aussi incroyable que ça puisse paraître, les phtalates qui sont un adjuvant qu'on ajoute au PVC pour le rendre plus plastique, pour le rendre plus souple, pour éviter qu'il ne se brise en cas de grand froid, eh bien, un rideau de douche peut contenir jusqu'à plus que la moitié de son poids en phtalate, qui est un des produits chimiques connus pour son extrême danger, connu pour être un perturbateur endocrinien, connu pour être cancérigène. Donc, si vous voulez, pendant, disons, grosso modo 20 ans, entre les années 20 et la guerre, la fin des années 30, l'industrie chimique américaine a inventé énormément de familles de plastiques. Et après, il suffisait pas d'avoir du plastique. Le nylon, au point de départ, il y a des photos extraordinaires. On voit des chimistes américains qui tirent avec une espèce de pipette sur un premier fil de nylon. C'est vrai que c'est assez envoûtant. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est la machine qu'il y a derrière. Or, la machine qu'il y a derrière, c'est une machine essentiellement publicitaire et commerciale. Figurez-vous que Dupont, quand il a commencé à commercialiser les bains en nylon, il a réussi à convaincre l'opinion américaine puis mondiale que les bains en nylon, c'était beaucoup mieux que les bains en soie naturelle qui existaient et qui étaient les concurrents directs. Or, c'était totalement faux. C'est-à-dire que le nylon valait plus cher, était beaucoup moins résistant que la soie naturelle, mais par des procédés qu'on connaît aujourd'hui parfaitement, des procédés de marketing et de propagande, de propagande publicitaire, l'industrie a réussi à faire saliver des milliers de femmes américaines qui ont fait saliver des centaines de milliers de femmes puis européennes et ensuite étendues au monde entier. Et voilà comment, au fond, en découvrant des familles chimiques qui pouvaient éventuellement avoir un intérêt, on a répandu dans le monde entier, et vous avez raison, jusque dans les océans, mais aussi dans les rivières, mais aussi dans les lacs. Par exemple, il y a des chiffres absolument affolants sur le lac de Garde, sur le lac Léman, sur les grands lacs américains, le lac Erie. Il y a du plastique, il y a des microbilles plastiques, vous évoquez ça, ces microbilles plastiques qui sont invisibles, figurez-vous, mais qui sont une des matières premières de l'industrie plastique et qu'on retrouve par exemple aujourd'hui dans quantité de cosmétiques.
Pour revenir aux perturbateurs endocriniens qu'on retrouve donc dans certains plastiques, vous citiez tout à l'heure le Rachel Carson, hein, héroïne de l'humanité selon vous, qui avait dénoncé les DDT. On pourrait parler de Theodora Colburn, une zoologiste américaine, pour son rôle justement sur la découverte des perturbateurs endocriniens. Je vous laisse raconter comment on a découvert l'effet pervers des perturbateurs endocriniens.
Alors écoutez, donc c'est une biologiste, une zoologiste qui étudie finalement l'état de santé des animaux sauvages dans la zone des grands lacs américains, donc à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Et elle découvre, dans le cadre de son travail, elle se rend compte que les populations animales se portent mal, que la reproduction devient problématique chez un nombre croissant d'animaux. Elle malaxe ces informations, elle se demande ce qu'il se passe, et elle se rend compte de quelque chose, et elle réunit quelques collègues. Pendant 3 jours, cette trentaine de scientifiques se réunissent et vont forger, grâce à Theo Colburn, cette expression qui aujourd'hui rend un son tout à fait inquiétant, l'expression de perturbateur endocrinien. Qu'est-ce que c'est que les perturbateurs endocriniens? Ce sont des produits chimiques qui, à des doses absolument infinitésimales, parviennent à entrer dans l'organisme des vivants, dont nous les humains, parce que ces produits imitent les hormones naturelles se font passer en quelque sorte, le message chimique qu'elles portent, c'est qu'elles sont des hormones naturelles, le corps les laisse passer, mais ce ne sont pas des hormones naturelles, et elles déséquilibrent la totalité du système endocrinien, qui est notre équilibre fondamental, qui nous permet de dormir, qui nous permet de nous reproduire, c'est absolument fondamental.
Fabrice Nicolino, vous restez avec nous, on se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes après le Flash Info sur RFI, à tout de suite.